Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 janvier 2018 en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
Au Mali, 8 djihadistes et 2 militaires tués hier dans la région de Mopti.
En Côte d'Ivoire, ouverture d'un centre international de formation à la lutte antiterroriste en septembre prochain.
Au Tchad, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme a maintenu son mot d'ordre de marche hier.
Au Burundi, arrivé depuis mercredi de près de 3500 Congolais fuyant les combats dans le sud Kivu.
Au Cameroun, un gendarme a été tué hier dans une attaque attribuée à des séparatistes présumés dans le nord-ouest du pays.
La Maison-Blanche a publié les détails d'un compromis possible sur l'immigration.
Et ne manquez pas notre page sport avec le Chan au Maroc ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'armée a tué 8 djihadistes à Youarou et perdu 2 hommes lors d'une attaque de ces derniers contre ce camp militaire. Elle a procédé ensuite à l'arrestation d'une trentaine de personnes. Par ailleurs, à Boni, toujours dans la région de Mopti, 26 civils ont perdu la vie dans l'explosion d'une mine. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Le jeudi 25 janvier 2018, tôt le matin, aux environs de 5 heures, des djihadistes ont attaqué le camp de la ville de Youarou dans la région de Mopti. Ils se sont divisés en 3 petits groupes pour donner l'assaut. Le premier a lancé son attaque à partir du sud-est du camp, le second à partir du nord-est et le troisième par la porte principale de la base militaire. Les assaillants ont d'abord tiré à l'aide de lance-roquettes sur les camps, suivis de tirs nourris d'armes automatiques. 2 soldats sont touchés, l'un est mort sur le coup et le second gravement blessé, succombant à ses blessures quelques heures plus tard. Les forces armées maliennes ont riposté à l'aide d'armes lourdes et automatiques. Leurs combats ont été très violents. Face à la puissance de feu des FAMA, les terroristes ont décidé de décrocher. Ils se feront poursuivre par les militaires. Au même moment à Boni, un véhicule en provenance de Djibo, frontière Mali-Burkina, qui transportait des forains, tous des civils pour la foire hebdomadaire de Boni, dans la région de Mopti, a sauté sur une mine à Beibi, 8 km au sud-est de Boni. Tous les occupants du véhicule ont été tués. C'est l'attaque la plus meurtrière du début de l'année au Mali. Environ 26 civils y ont perdu la vie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un centre international de formation à la lutte antiterroriste ouvrira en Côte d'Ivoire en septembre prochain. C'est ce qu'ont annoncé le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, et l'ambassadeur de France, Gilles Oberson. Le point avec Morgane Guériec.
L'école de Jacqueville, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, accueillera des cadres avant de recevoir les premiers stagiaires au premier trimestre 2019. Elle recevra surtout des membres des forces de sécurité, mais aussi des fonctionnaires ou agents pouvant être concernés. Et cette école aura d'abord une vocation régionale, puis internationale, a assuré l'ambassadeur de France. Elle formera des unités pouvant intervenir rapidement sur des attentats, mais aura aussi une expertise en matière d'identification ou de mode opératoire, a précisé le ministre ivoirien de la Défense. D'autres centres, comme une école de déminage au Bénin, fonctionnent déjà. Le centre de Jacqueville vise à devenir une référence mondiale en matière de lutte contre le terrorisme.
Au Tchad, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme a maintenu son mot d'ordre de marche hier, malgré l'interdiction, les menaces des autorités et le retrait de cette autre association du mouvement. Les forces de l'ordre ont quadrillé N'Djamena pour empêcher cette marche contre les mesures d'austérité et la hausse des prix des hydrocarbures, mais les protestataires ont tenu à se faire entendre. Yacouba Ouedraogo a joint Mahamat Nour Ahmed Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme.
La marche a été suivie seulement à moitié. Cela est dû certainement au dispositif sécuritaire impressionnant parce que tous nos points de rassemblement ont été envoyés par les coalitions de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et des militaires même. Dans certains secteurs, comme le secteur sud, comme les espaces sont assez difficiles à maîtriser, nos camarades ont pu marcher quand même. Dans les autres coins, comme par exemple le 1er arrondissement et le 2e arrondissement, il n'y avait pas assez de monde. Donc en fait, le bilan, on peut l'estimer à 50% à peu près.
Est-ce qu'il y a eu des arrestations?
Oui, il y a eu cadre des arrestations. En ce moment, au moment où je vous parle, deux de nos camarades sont restés en prison. Cinq conducteurs de moto-taxi qui manifestaient avec les gens qui avaient été appréhendés. Et puis, ils ont appréhendé cinq personnes de la Convention italienne, dont trois membres de notre bureau exécutif. Le troisième vient d'être relâché parce qu'il était blessé.
Vous saviez qu'il y aurait cette répression-là de la marche puisqu'elle a été interdite par le gouvernement.
Nous, les Italiens, certes, ont beaucoup plus de brutalité. Il n'y a pas eu trop de casse parce que nous avons formellement demandé à nos encadreurs d'éviter toute casse. La marche était vraiment pacifique.
Est-ce que vous pensez que votre message est passé tout de même?
Absolument, absolument. C'est même un avertissement au gouvernement parce que nous n'entendons pas nous arrêter là parce qu'aucune de nos revendications n'a été évoquée même par le gouvernement. Et donc, nous allons continuer jusqu'à satisfaction.
Mahamat Nour, Ahmed Ibedou, Joanne Djamena. En deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur les raisons du retrait des sept autres associations de la marche hier.
Au Cameroun, un gendarme a été tué hier dans une attaque attribuée à des séparatistes présumés dans le nord-ouest du pays, l'une des deux régions anglophones. Anastasie Toudiech.
La victime est un adjudant-chef déployé dans le cadre des opérations de sécurisation des zones anglophones. Mercredi, de nombreux tracts ont circulé dans la ville de Kumbo, annonçant la création d'une armée de résistance dénommée Banso Résistance Army, qui dit vouloir se battre, comme le font déjà d'autres, pour l'indépendance du Cameroun anglophone. Début janvier, le leader des indépendantistes, Sissiku Ayuk Tabe, et neuf de ses partisans ont été arrêtés au Nigeria, où ils sont détenus au secret, selon Amnesty International. Le 1er octobre, son mouvement a publié une déclaration symbolique d'indépendance de l'Ambazonie, nom donné à leur projet séparatiste. Après plusieurs attaques contre les forces de l'ordre, les autorités camerounaises ont accru la pression sécuritaire. Les rangs des sécessionnistes se sont aussi étoffés, faisant craindre l'émergence d'une insurrection armée.
Près de 3500 Congolais fuyant des combats entre l'armée et des rebelles dans la province congolaise du Sud Kivu ont été accueillis au Burundi depuis mercredi, a annoncé hier la police burundaise. Selon le commandant des opérations militaires congolaises dans la région et des témoignages recueillis auprès de ces réfugiés, l'armée congolaise mène depuis plusieurs jours une opération contre la milice des Yakutumba dans la région de Fizi, à proximité du lac Tanganyika.
Le 30e sommet de l'Union africaine se tiendra les 28 et 29 janvier à Addis Abeba. Les travaux préparatoires ont commencé le 22 janvier avec les ambassadeurs africains. Puis les ministres des Affaires étrangères ont pris le relais pour préparer la réunion des chefs d'État. Le point sur l'ordre du jour des chefs d'État africains avec Getachew Tedla à Addis Abeba.
Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a inscrit dans son ordre du jour cinq principaux points, à savoir les plus culminants, la corruption igabéji, la réforme administrative de l'institution continentale telle conçue par le président rwandais Paul Kagame, qui prendra par anticipation la présidence tournante au terme des travaux du sommet. L'Union africaine, désormais, devant prêter l'oreille à la société civile, le règlement des conflits prévalant dans certaines parties du continent, et pour ce faire, allouer le budget de fonctionnement adéquat afin de ne plus dépendre de l'assistance étrangère. Ce sont là, bien entendu, de bonnes intentions, comme toujours. Mais quant à leur réalisation de l'avis des ambassadeurs résidant dans la capitale éthiopienne, dont les travaux viennent de s'achever pour la reprise du Conseil des ministres, sont confiants tant que l'Afrique n'a pas d'autre porte de sortie. Getachew Tedla, Addis Abeba pour La Voix d'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après avoir provoqué la colère des Palestiniens en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, le président américain Donald Trump a haussé le ton hier en menaçant de couper l'aide américaine s'ils ne reviennent pas à la table des négociations. Les précisions de John Lyndon.
Ils nous ont manqué de respect en refusant de recevoir notre excellent vice-président Mike Pence, a déclaré M. Trump lors d'une chaleureuse rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Nous leur avons donné des centaines de millions et cet argent ne leur sera plus versé à moins qu'ils ne s'assoient et négocient la paix, a-t-il ajouté. Les négociations sont au point mort depuis 2014. La réponse palestinienne n'a pas tardé. Refuser de rencontrer votre oppresseur, ce n'est pas manquer de respect, c'est se respecter soi-même, a déclaré Anan Ashraoui, une dirigeante de l'Organisation de libération de la Palestine. Nabil Abou Roudena, porte-parole de la présidence palestinienne, a encore une fois rejeté toute médiation américaine. tant que Washington ne sera pas revenu sur sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. De son côté, Benjamin Netanyahou, tout sourire à Davos, s'est dit tout à fait prêt à négocier.
Enfin, la Maison-Blanche a publié hier les détails d'un compromis possible sur l'immigration que les parlementaires américains peuvent accepter ou rejeter. Cette proposition assortie de conditions ouvrirait la voie à la naturalisation d'1,8 million de Dreamers, ces sans-papiers arrivés très jeunes aux États-Unis en compagnie de leurs parents. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a défendu à Davos un dollar faible pour soutenir les exportations des États-Unis. L'économiste Sylvie Matelli explique les conséquences sur l'économie mondiale.
Ça peut avoir des conséquences extrêmement fortes sur la Chine en réduisant la compétitivité de ce pays. Ça peut également avoir des conséquences sur l'euro et sur la zone euro, puisqu'on sait très bien que les deux monnaies sont couplées. Quand il y en a une qui monte, l'autre baisse et vice-versa. Ça peut aussi affecter la compétitivité de l'économie européenne alors même qu'elle est en pleine reprise après des années de crise économique, de crise de la dette et de tous les aléas économiques qu'elle a connus ces dernières années.
L'affaiblissement du billet vert n'a pas toujours profité aux exportations américaines, selon Mme Matelli.
Il est difficile de savoir si ça va fonctionner cette fois-ci. Ça dépendra véritablement de la quantité, en fait, de l'importance de cette baisse du dollar. Et ça, on le saura dans les mois qui viennent. Ça peut être une guerre économique et commerciale redoutable. C'est très certain une guerre des monnaies.
Les guerres des monnaies frappent les pays émergents ou en développement.
L'affaiblissement du dollar dans les années 2012-2013, qui a eu des conséquences directes sur la compétitivité des économies comme l'économie brésilienne, ponctuellement l'économie indienne ou l'économie turque se sont ressaisies ensuite. Donc on est très clairement dans cette configuration.
Et quels sont les favorisés ?
Les pays qui importent massivement et défavorisent les pays qui exportent et qui exportent en particulier des matières premières puisque ces produits sont échangés sur les marchés mondiaux en dollars.
L'économiste Sylvie Matelli de l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Aucun match aujourd'hui au Maroc, journée de repos au CHAN 2018.
On attend les quarts de finale qui commencent ce week-end dans le royaume chérifien. Samedi, le pays organisateur, le Maroc, face à la Namibie à Casablanca. Le pays organisateur qui veut remporter la compétition devant son public et qui devra se méfier du piège namibien. Au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Sur le papier, le premier quart de finale du CHAN 2018 entre le Maroc et la Namibie semble déséquilibré. En effet, le pays organisateur a l'avantage de jouer devant son public et possède dans son effectif des joueurs rompus aux joutes continentales. De plus, les Lions de l'Atlas ont réalisé deux sorties convaincantes devant la Mauritanie et la Guinée lors du premier tour. Néanmoins, les Brave Warriors ont une belle carte à jouer à Casablanca. Tout d'abord, les hommes de Manetti disposent d'une organisation de jeu très rigoureuse. Par ailleurs, leur état d'esprit est irréprochable. Enfin, lors de leur match du premier tour, ils ont montré de gros arguments. Résultat des courses, la Namibie a battu la Côte d'Ivoire et l'Ouganda et contraint au nul la Zambie. D'ailleurs, les joueurs espèrent poursuivre leur aventure jusqu'en demi-finale au moins, quitte à créer la sensation du tournoi en éliminant le favori numéro 1 du CHAN. Un favori qui a plus à perdre samedi qu'à gagner. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
L'autre match samedi, Zambie-Soudan, la Zambie qui avait terminé première du groupe B. Ce match aura lieu à Marrakech. Dimanche, Nigeria-Angola à Tanger et la surprenante équipe du Congo-Brazzaville qui a terminé première du groupe D affrontera à Agadir dimanche la Libye.
Le Gabon sorti de sa canne de handball à Libreville.
L'équipe masculine du Gabon a été éliminée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 à domicile à Libreville par le Maroc 23-26. Qualification également pour les demi-finales de la Tunisie qui a battu la République démocratique du Congo 38-21. L'Angola qui a dominé l'Algérie 29-27. Enfin, les Congolais qui ont été battus par l'Égypte 22-37. Conséquence, les demi-finales ce vendredi, Tunisie-Angola et Maroc-Égypte.
Tennis Open d'Australie, le premier finaliste connu chez les hommes.
Oui, Marin Cilic a bien négocié son duel face à Kyle Edmund en demi de l'Open d'Australie. Le score 6-2, 7-6, 6-2. Le Croate qui va jouer sa troisième finale en Grand Chelem et chercher un deuxième titre après celui de l'US Open en 2014. Il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale tout à l'heure entre Roger Federer et le jeune prodige sud-coréen Chung. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Sacramento Kings et Miami Heat, 89 à 88. Oklahoma City Thunder et Washington Wizards, 121 à 112. Denver Nuggets et New York Knicks, 130 à 118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, et comme promis en première partie, 7 mouvements de la société civile sur les 8 organisateurs de la marche d'hier contre les mesures d'austérité et la hausse des prix des hydrocarbures se sont retirés de la manifestation. La Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme a toutefois maintenu son mot d'ordre. L'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad et 6 autres mouvements ont renoncé à marcher. Pourquoi? Eh bien, c'est la première question que Yacouba Ouédraogo a posée à Céline Narmadji, présidente de l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad.
On ne s'est pas retiré pour se retirer. On a introduit une requête officielle auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour mettre à notre disposition la police en vue d'encadrer la marche dans les 10 arrondissements de la capitale. On attendait la réponse 6 jours francs après. Ça n'a pas été le cas. Et la réponse s'est passée d'abord à la télévision, à la radio, suivie des SMS qui interdisaient la marche. Et nous, on s'est dit, devant cette situation, est-ce qu'il ne faut pas adopter autre stratégie? On était encore en discussion quand le ministre a appelé un de nos collègues pour nous demander de le rejoindre à son bureau à 16h. C'était le même jour.
Le mardi dernier.
Oui, oui. On était là-bas. Après échange, il était question de revoir notre itinéraire et de leur proposer une seule ou deux, parce qu'ils sont en sous-effectif et ils ne peuvent pas couvrir les 10 arrondissements. Si nous voulons, nous insistons et que nous allons en cas de dérapage, qui assume la responsabilité? Est-ce que c'est l'État ou c'est nous? On est revenu à notre QG, on est en train de réfléchir, d'autres disent communiqué de presse, on a rédigé. Tout le monde a signé, c'est là où mon frère Ibidou a claqué la porte. Personne ne nous a forcé de signer quoi que ce soit. Tout ce qui s'est dit sur la toile, vraiment, ça démotive les gens qui sont sur le terrain en train d'affronter, de faire le face-à-face. On les dénigre, on entre même dans leur vie privée. Ça démotivait plus d'un leader.
Qu'est-ce qui s'est dit sur la toile à votre sujet?
Je suis la sorcière du groupe. J'ai trahi le groupe. Je suis une traître. Je suis une opéreuse que j'ai déposé même une demande pour m'exiler en France.
Est-ce que vous craignez désormais pour la crédibilité de votre association?
Non, je ne me reproche rien, je ne m'y reconnais pas. Ceux qui m'ont vu dans la lutte de 92 à aujourd'hui savent qui est la personne là. Personne du groupe là n'a pris l'argent. Si l'argent y est, c'est que Ibedou a aussi pris sa part. Parce qu'on était tous ensemble. Que les gens arrêtent de jeter la notaine sur le titre ce soir parce qu'on fait le travail du bon cœur. Et c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de tous les Tchadiens.
Votre association ainsi que 6 autres associations se sont retirées de la manifestation. La Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme a maintenu son mot d'ordre. Est-ce que désormais il n'y aura pas ce froid-là dans le collectif des organisations de la société civile?
On n'est pas les ennemis de la République. Nous sommes des partenaires. C'est pas juste ce que mes frères et sœurs sur la toile ont fait avec tous ces 6 leaders des organisations. On peut rester comme tous les Tchadiens. On subit.
La suite, c'est quoi?
Dans le désordre, on ne peut rien faire parce que les gens en ont gros au cœur. On sait qui fait quoi dans ce pays. En dehors de ce groupe-là, aucune organisation ne bronche. Donc moi, je n'encourage pas la jeunesse à se foncer dans la colère.
Céline Narmadji, présidente de l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, les échéances électorales de 2018, dont la présidentielle, mobilisent déjà l'ensemble des acteurs politiques du pays. Alors que les inscriptions sur les listes électorales s'intensifient, on assiste à des alliances entre formations politiques de l'opposition. Pour sa part, Élections Cameroun, l'organe chargé d'organiser les scrutins, a mis sur pied de nouvelles stratégies pour la distribution des cartes d'électeurs. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Le parti au pouvoir a d'ores et déjà envoyé ses responsables locaux sur le terrain, avec pour mission veiller à l'inscription des militants sur les listes électorales ainsi qu'au retrait de leurs cartes d'électeurs. En 2018, de nombreux élus locaux, sénateurs, députés, conseillers municipaux et un président de la République devront sortir des urnes en vue de l'élection présidentielle. Akeremouna a été fait candidat d'une plateforme de l'opposition le 15 janvier dernier. Un choix qu'analyse Sam Séverin Ango, porte-parole du candidat à Akeremouna.
Pour ce qui a été déclenché le 15 janvier dernier est tout simplement le commencement d'une ère nouvelle. 2018, c'est le tournant pratiquement. Il faut aller conquérir ces suffrages-là. Vous avez les trois quarts du pays qui ne se sont pas intéressés au vote.
Mercredi dernier, le secrétaire général du Social Democratic Front a annoncé à la presse que le comité exécutif national du SDF s'y tiendra le 9 février prochain. Bien avant cela, une alliance entre le SDF et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dirigée par Maurice Kamto, pourrait se nouer. Confirmation avec Sosten Médard Lipote, conseiller du président du Mouvement pour la Renaissance, MRC.
Les rencontres ont commencé depuis plusieurs jours et vont se poursuivre d'ailleurs avec des leaders de la société civile, la société politique, des personnalités indépendantes aussi, pourquoi pas, et qui sont marquantes et qui peuvent contribuer à l'évolution des choses, et notamment dans le sens d'une véritable alternance politique au Cameroun.
La mobilisation actuelle concerne aussi les formations de la majorité présidentielle. C'est le cas de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. Léonide Mvoum, membre du secrétariat national à la communication de l'UNDP.
Nous observons et nous lisons l'actualité telle qu'elle se déroule et nous sommes en capacité de pouvoir réagir. Il y a des actions qui ont été prises pour préparer les élections, notamment le renouvellement des organes de base de notre parti.
Seul bémol de cette mobilisation, les Camerounais et 6,5 millions seulement sont inscrits sur les listes électorales et un certain nombre n'a pas encore retiré les cartes d'électeurs, obligeant Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser les 10 scrutins, à entreprendre depuis la semaine dernière le porte-à-porte, l'envoi des SMS aux propriétaires des cartes non retirées. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Le président sud-africain Jacob Zuma ne participe pas cette année au Forum économique mondial de Davos en Suisse. C'est la première fois qu'un dirigeant sud-africain s'absente à ce rendez-vous annuel. La délégation de Pretoria est conduite par le vice-président et président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Le pouvoir serait-il en train d'échapper au président Zuma? Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Pretoria l'analyste Axel Bembe.
Il ne pèse plus d'un poids substantiel sur l'échiquier politique sud-africain. En principe, dans le système politique sud-africain, le leader de l'ANC, du parti au pouvoir, détient au fond l'essentiel du pouvoir. Les élections qui ont eu lieu le mois dernier ont confirmé l'ascension de M. Ramaphosa. Et pour l'heure, c'est lui qui dirige le pays lui-même et les 6 membres du Conseil national de l'ANC. C'est pour cela qu'il se trouve à Davos.
Mais Ramaphosa a gagné avec une légère majorité.
Oui, le parti était fortement divisé. Il demeure dans une large mesure, mais il est également clair que les membres du Conseil national de l'ANC, les 80 personnes qui au fond dirigent le parti, la plupart d'entre eux penchent du côté de celui qui est au pouvoir. Et celui qui est au pouvoir pour les 10 années qui viennent, c'est Ramaphosa. Zuma fait désormais partie du passé. Il essaye de l'amener à démissionner à partir lui-même. J'imagine qu'il est en train de négocier justement cette démission.
Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être forcé de partir ou ça pourrait avoir des conséquences sur le parti?
Le mieux serait qu'il démissionne de son propre gré, ce qui éviterait la désunion du parti et une crise politique parfaitement inutile. Mais tout le monde ici sait de quel bois est fait M. Zuma. Il négociera sans doute au prix le plus élevé son départ du pouvoir.
Mais c'est quand même étonnant, il est le président du pays.
Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un désajustement du calendrier politique. Les élections au sein de l'ANC ont lieu au moins 19 mois avant la fin du mandat présidentiel. Coïncide avec l'année électorale en Afrique du Sud. Le plus simple consisterait à harmoniser le calendrier politique. Sur un autre plan, M. Zuma a causé beaucoup de tort à son pays. Il est discrédité. Il a été le président qui, pendant longtemps, apparaîtra comme le plus corrompu dans l'histoire de l'ANC. Il est l'objet d'innombrables poursuites judiciaires. Il n'est pas évident qu'une fois parti, il reste libre. Il risque la prison au point où on en est. Et donc, il a énormément peur de s'en aller. Il a voulu se faire remplacer par son ex-femme. Ça n'a absolument pas marché. Et donc, sa situation s'est largement affaiblie. Et le plus vite il s'en va, le mieux c'est pour la nation sud-africaine.
L'analyste Achille Mbemba, joint à Pretoria. En Guinée, les déchets plastiques envahissent les rues et autres places publiques de Conakry, la capitale. Notre correspondant sur place, Zakaria Camara, nous dit que le pays n'interdit pas la production, l'importation et la commercialisation de cette matière utilisée au quotidien par les Guinéens.
Des ordures entassées au milieu des rues de Conakry, des déchets solides produits par des ménages qui les gardent dans des emballages plastiques avant de les déverser sur les places publiques. Des sacs plastiques vendus en quantité et partout dans la capitale.
En fait, quand nous venons pour faire des achats dans les boutiques par là, on met souvent tous nos articles dans des plastiques. Certainement, c'est parce qu'il n'y a pas autre moyen, je crois. C'est pourquoi on utilise ces plastiques.
De nombreuses femmes ignorent le caractère nuisible des emballages plastiques. Certaines les brûlent pour faire le feu. Ces sacs se dégradent difficilement et pour ce chercheur, il faut une prévention.
Le problème des plastiques, c'est que ce sont des substances non biodégradables. C'est-à-dire que ces produits peuvent faire des milliers d'années, des siècles, sans qu'ils soient décomposés. L'eau ne peut pas dissoudre ces plastiques. Donc la nature n'a pas de solution rapide parce que c'est des substances non biodégradable.
La Guinée est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas interdire la fabrication et l'importation des emballages plastiques. En attendant, leur utilisation se fait à grande échelle. Face à la menace de pollution, cet ancien informaticien comptable propose sa solution.
Guinée Manufacture s'occupe de la confection des emballages biodégradables dans le cadre de la protection de l'environnement. L'adaptation au changement climatique prôné par l'Organisation des Nations Unies. C'est dans ce cadre-là que j'ai créé cette initiative, dans l'intérêt exclusif de la population guinéenne, africaine et mondiale.
Seul, Ibrahima Souri a confectionné plus de 1000 sacs papier depuis la création de sa PME il y a 18 mois.
À la date d'aujourd'hui, malgré les multitudes de correspondances adressées à certaines institutions qui sont docteurs belges. Sachez une chose, je n'ai jamais encore réussi à vendre même un demi-sac depuis que j'ai commencé le travail. Pourquoi ? Parce que la culture n'est pas encore instaurée en Guinée. Et pour que cela y ait, j'ai besoin l'accompagnement politique.
La capitale Conakry produit plus de 2000 tonnes d'ordures, des déchets liquides mais aussi des déchets plastiques. La mauvaise gestion de toute cette quantité produite dans la capitale amène certains Guinéens à entasser des objets de rebut dans les sacs plastiques, mais pas seulement. D'autres y mettent impunément le feu. Une action dénoncée par les défenseurs de la nature. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'épidémie de choléra en RDC.
Maladie diarrhéique très contagieuse et mortelle, le choléra a déjà tué plus de 1000 personnes depuis le début de l'épidémie, selon Médecins Sans Frontières.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Jacques Kitenge, médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il nous dira comment éviter cette maladie.
Nous écouterons aussi le témoignage du professeur Didier Bompangé, coordonnateur du programme national d'élimination du choléra. Il nous parlera de la lutte contre l'épidémie.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Earl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.